On a beaucoup parlé, chanté, réfléchi sur la question en fait de nos péchés, de nos fautes, ce matin avec la Sainte Cène, avec plusieurs des chants qui nous parlent de notre fragilité. Si je t'oubliais, face à nos fautes, à notre vie, ça marche pas, comme ça. Notre vie qui n'est pas toujours à la gloire et à l'honneur de Dieu. Ce matin, en déjeunant avec Claire, on a évoqué un de nos neveux qui est tombé dans la drogue et qui est en lutte face à cela. Et cette semaine, il voit le problème dans sa vie et une nuit, il n'arrivait pas à dormir. Alors il est allé sur la terrasse et durant la nuit, il a regardé le film Jésus. Il était déjà passé par une conversion. Il a fait une rechute là, malheureusement, dans la drogue, a priori. Et en discutant le lendemain, après avoir regardé ce film, donc de la vie de Jésus, il disait à quel point ce qui est difficile pour lui, c'est que il a l'impression qu'il n'a jamais assez demandé pardon. Et c'est quelque chose qui le pèse. Comment gérer son péché, en fait? Donc, comment accepter, apprécier vraiment le pardon de Jésus-Christ? Et gérer notre péché, gérer notre faute, qu'elle soit dans nos pensées, et on a plein de pensées qui peuvent vraiment partir de manière bizarre sur les critiques, sur l'immoralité, etc., que ce soit des fautes, parfois aussi par nos paroles, on peut être extrêmement violent. En fait, en général, on est toujours plus violent par nos paroles que par nos actes. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des actes d'une extrême violence aussi. Tout ça, c'est ce péché, ce qui déshonore Dieu, ce qui dit à Dieu, je veux pas toi, c'est moi qui sera au centre. Comment réagir? Comment gérer notre péché? J'ai accompagné aussi quelqu'un qui a connu l'homosexualité et qui se disait, mais en tant que chrétien, Dieu ne peut pas pardonner cela. Et il était dans une dépression profonde à cause de sa faute, à cause de cette immoralité sexuelle qui l'accablait terriblement. Et ça allait à un tel point qu'il se voyait rejeté par Dieu. Dieu ne va plus jamais m'accepter. Comment gérer notre péché? Comment vivre au final la repentance? Et j'aimerais vous inviter à un texte qui nous invite à y réfléchir justement, qui est un psaume, le psaume 90. Seul psaume qui nous vient de Moïse et qui est écrit face à la faute, face au péché du peuple. Et au travers de ce psaume, Moïse nous apprend la repentance, nous invite à la repentance, nous conduit comment vivre pleinement une repentance devant Dieu. Et avant de le lire, j'aimerais encore prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu connais entièrement nos vies. Rien ne t'est caché. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, même ce qu'on ne veut pas montrer aux autres, tu le connais. Et c'est un grand soulagement quelque part de savoir que rien ne t'est caché. Parce que c'est avec cette connaissance de nous que tu nous invites à venir vers toi. Et c'est avec cette connaissance intime de l'être humain que tu nous transmets ta parole pour nous apprendre à vivre chaque moment, chaque réalité de notre vie. Et la dureté du péché aussi encore présent dans nos vies. Et je te prie, Seigneur, de nous conduire dans ta parole, de nous aider à en prendre plaisir, à nous laisser toucher, transformer par elle, que par ton Esprit Saint, tu puisses nous saisir afin de conformer nos vies à toi, afin de nous apprendre la repentance et à vivre de manière nouvelle devant toi. Je te prie selon le nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seul psaume de Moïse, comme dit, qui nous est transmis et qui est écrit face au péché. Et c'est assez clair ici. Verset 8, par exemple, « Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. » Et verset 13, « Reviens, Éternel, jusque à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. » Et ce qui est marquant, c'est que Moïse ne dit pas « Aie pitié de leurs fautes !» Mais Moïse reconnaît « Oui, moi aussi, aie pitié de nos fautes. Reviens à nous. » Et ce qu'on remarque aussi, c'est que Moïse ne nous transmet pas l'occasion de ce psaume. Il ne dit pas, c'est parce que nous avons péché en telle circonstance, lors du veau d'or, ou lors de Baal-Péor, ou lors de ce que nous avons refusé de monter en Canaan. Il ne nous donne pas la circonstance. Et au travers de cela, parce que nous ne savons pas la circonstance, Moïse nous permet au final à chacun de nous approprier ce psaume. Il nous permet en fait, face à notre péché, quel qu'il soit, face à notre faute, que ce soit une faute par nos mains, que ce soit une faute par nos bouches, que ce soit une faute par nos pensées, Moïse nous permet au final de nous associer, de nous approprier ce psaume, de le faire nôtre, pour aussi nous apprendre la repentance face à Dieu. Et voilà ce qu'il nous apprend et comment il nous apprend à vivre la repentance. Premièrement, première chose qu'il nous dit de manière assez extraordinaire face au péché, première chose qu'il rappelle, tu as été pour nous un refuge, verset 1, de génération en génération. Face à notre mal, face au mal que j'ai commis, Moïse nous invite premièrement à nous rappeler que Dieu est pour nous un abri. Dieu est pour nous un refuge. Nous méritons sa colère. Mais face à la colère de Dieu, le seul abri, le seul refuge, le seul endroit pour être pardonné ou délivré ou trouver secours, face à la colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu as été pour nous un refuge. Et il dit ça de génération en génération. C'est-à-dire que Moïse réfléchit à ce qui s'est passé avant. Effectivement, si on lit ce qui s'est passé avant dans l'histoire de l'humanité et du peuple, avant Moïse ou jusqu'à Moïse, on peut réfléchir à Adam et Ève. Dieu leur a dit, il avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et face à leur faute, face à leur péché, Dieu n'a pas renoncé à son amour. Ils sont morts physiquement, mais Dieu a dit, je vais pourvoir à ta faute. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui écraseras le talon quand il parlait au serpent. Je vais pourvoir. Quelqu'un va venir vous délivrer, parce que vous ne pouvez pas le faire. Et Dieu couvre la nudité, la faute, la honte suite à la faute d'Adam et Ève. Il est intervenu, il a été le refuge d'Adam et Ève. Si on regarde Abraham face à ses peurs, à son manque de courage, il a tellement été courageux que face à ses difficultés, il a livré sa femme. Et Dieu est intervenu, a protégé et a rétabli. Jacob, le père de la nation, celui dont la nation de Dieu tire son nom, Israël, il a trahi son père, il a trahi son frère, il a menti, il a monté des arnaques de manière assez impressionnante. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu s'est engagé envers lui, avant sa repentance même, mais de l'accompagner et de le faire revenir dans le pays, et il l'a béni. Dieu a été le refuge de Jacob. Donc, Moïse est en train de nous faire réfléchir. Regardons à toute l'histoire précédente. Regardons comment Dieu a géré l'histoire de l'humanité, comment Dieu a géré ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et si nous sommes encore vivants aujourd'hui, si l'humanité existe encore aujourd'hui, c'est parce que tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Tu as toujours tendu ta main. Tu nous as toujours accueillis les bras ouverts. Tu as toujours été prêt à nous pardonner et à nous libérer de ta juste colère. Nous méritons ta colère, mais tu as toujours voulu nous en délivrer en la prenant sur toi. Dieu est ce Dieu proche, un refuge. Mais deuxième chose qu'il nous dit, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu proche, mais il nous fait réfléchir aussi à une autre facette de Dieu. Dieu est aussi le Dieu qui règne, le Dieu créateur, le Dieu souverain, versets 2 à 6. Autant Dieu est proche, le refuge, autant Dieu est au-dessus de tout. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et Moïse, qui a vécu, a vu toute la fragilité de la vie humaine, notamment face à la grandeur de Dieu, et il voit tout l'aspect humiliant. Nous avons tellement tendance à nous mettre au centre de l'univers, n'est-ce pas ? À penser que tout tourne autour de nous, que l'homme peut tout, que l'homme gère tout, que tout existe pour mon plaisir, et que même souvent, même en tant que chrétien, que Dieu existe pour mon plaisir. Dieu est là pour répondre à mes prières. Dieu est là pour me rendre heureux. Dieu est là pour me guérir. Et s'il y a un problème, c'est que ça ne va pas. Dieu est là pour mon plaisir. Je suis au centre et Dieu est le serviteur qui tourne dans ma périphérie. Mais Moïse, ici, nous appelle à l'humilité. Ce n'est pas moi. Mais toi seul, et Dieu, je n'ai rien créé. L'aspect très humiliant, c'est que je suis qu'une créature. J'étais un fan de Playmobil quand j'étais petit. Je n'étais qu'un petit Playmobil. Et encore, ce n'est même pas moi qui les ai créés, je les ai achetés. Je suis rien du tout face à Dieu. Je suis rien du tout face à Dieu. Nous ne gérons pas notre temps sur terre. Dieu seul le fait. Et Moïse est en train de nous dire, c'est face à ce Dieu-là que j'ai péché. C'est face à ce Dieu-là, ce Dieu éternel, ce Dieu qui m'a créé, ce Dieu qui gère tout d'éternité en éternité, que j'ai mal agi. Et c'est grave. Et c'est très grave. Et il nous le montre par le fait que l'homme n'est rien, sa vie n'est qu'un souffle. On est un coquelicot, on le cueille, et c'est pas très joli à voir le soir, n'est-ce pas? Nous sommes que ça, face à Dieu. Et il nous montre la gravité de notre péché, cet aspect terriblement grave, versets 7 à 11, du mal, de notre corruption, de notre désir d'indépendance. Et il nous invite à considérer cette gravité. Avec cet appui sur la colère de Dieu. Verset 7, nous défaillons par l'effet de ta colère. En fait, si nous mourons, ce n'est pas parce que nous sommes malades. Si nous mourons, ce n'est pas parce qu'on s'est planté quelque part. Moïse nous dit, si nous mourons, c'est par l'effet de ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Pourquoi? Parce que tu mets devant toi nos fautes. Et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons, tout ce que nous essayons de cacher, Dieu le voit. On peut facilement tromper notre conjoint, malheureusement, n'est-ce pas? On peut facilement tromper nos parents. C'est facile. Le patron, les responsables de l'Église, franchement, c'est très très facile à les tromper. Mais Moïse nous rappelle, il y a une personne qu'on ne trompe jamais. Dieu sait. Dieu voix. Il y a même un psaume qui nous dit « Avant que la parole soit sur ma bouche, tu la connaissais déjà. » Dieu sait, Dieu entend, et même nos pensées. Et il nous est face à cette terrible colère. Verset 11, « Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due ?» Est-ce que nous sommes encore impressionnés par la colère de Dieu? Est-ce que nous tremblons encore à la colère de Dieu? Imaginez la situation suivante. Et malheureusement, c'est arrivé. Suite à la séparation de ses parents, un enfant était blessé par le départ de sa mère. Elle n'en pouvait plus de cette vie qu'elle menait avec son mari et elle est partie. Elle a quitté le foyer, laissant l'enfant et son père. Quelques années plus tard, et ça s'est malheureusement arrivé le mois dernier, parce que c'est une situation vraie, l'enfant lui a dit « Tu n'es plus ma mère. J'ai choisi ma famille. Mon père s'est remarié. C'est eux ma famille. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Tu n'es plus ma mère. » Vous imaginez ce que ça veut dire à un enfant, à la maman qui entend ça de son enfant? Vous imaginez la violence du rejet de ce qu'elle entend? Et c'est rien comparé à la violence de notre rejet de Dieu. C'est la violence d'un enfant qui rejette sa mère, créature contre créature, n'a rien à voir à la violence de la créature qui rejette son créateur. Autre situation, imaginez. Alors qu'une personne a agressé une vieille dame pour lui voler son sac à main, il se retrouve devant le juge et ce n'est pas la première fois qu'il agresse une vieille dame, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve devant le juge. Et le juge lui dit alors, « Bon mon gars, c'est pas bien grave. Va en paix, mais franchement, ne recommence plus. » Vous diriez quoi si vous assistez à ce jugement? Mascarade. Injustice. C'est pas normal, n'est-ce pas? C'est un scandale, il faut le condamner. Pourquoi on dit qu'il faut le condamner? Pourquoi on veut qu'il y ait justice? Pourquoi on veut qu'il porte une peine? Pourquoi? Parce que nous sommes terriblement méchants? Parce que nous sommes terriblement tordus? Non, pourquoi? Pourquoi on veut qu'il y ait condamnation? Pour se rendre compte de ce qu'il a fait. On veut que le mal soit déclaré mal, afin que lui se rende compte, mais que toute la société sache ça. Ça ne se fait pas. Moïse nous parle de la colère de Dieu, non pas pour nous dire que Dieu est violent, coléreux, mais il nous place face à la colère de Dieu pour lui dire, voilà la gravité de notre faute. Et Dieu est en train de nous instruire pour nous dire, ça, ça ne se fait pas. Ça, il ne faut pas le faire. C'est dangereux, c'est mauvais, non seulement pour toi, mais pour toute l'humanité. Et à cause de cela, Dieu juge. Et parce que c'est terriblement violent et beaucoup plus violent qu'un enfant qui rejette sa mère, quand on rejette le Créateur, ça peut aller jusqu'à la mort. Et Moïse a vécu cela dans le désert. Il a vu cette colère de Dieu face à la faute du veau d'or, juste 3-4 mois après la sortie d'Égypte. Ils ont adoré un autre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu a été manifestée. 32 000 morts. Le péché, c'est grave. Face au murmure de l'Assemblée après la révolte de Corée, nombre 17 si vous voulez vérifier, 14 700 morts. On ne joue pas avec Dieu. Face à l'idolâtrie et à ce libéralisme sexuel dans les plaines de Moab, nombre 25, 24 000 morts. Il y a eu beaucoup d'autres occasions où le nombre de morts ne nous est pas donné. Et si on reprend le livre des nombres, juste à la sortie d'Égypte où on fait le dénombrement, il y a 603 550 hommes qui sont dénombrés. Et à cause de leur faute, à cause de leur rejet de Dieu, ils sont condamnés à errer dans le désert pendant 39 ans, cette génération incrédule. Et pas à cause d'une fois, à cause de nombreux murmures et de nombreuses incrédulités, de nombreux rejets de Dieu, Dieu dit, maintenant c'est trop tard, c'est fini, cette génération va mourir dans le désert pendant 39 ans. Si on s'amuse à calculer, en moyenne, ça fait 42 morts par jour. 42 morts par jour pendant 39 ans. Et Moïse a appris une chose. La colère de Dieu est vraie. Le péché est grave. On ne joue pas ainsi avec Dieu. Et ça l'amène à dire, qui reconnaît la force de ta colère? Qui reconnaît la force de ta colère? Personne d'entre nous ne connaît vraiment la force de la colère de Dieu, Moïse dit. Parce que si vraiment on connaissait la force de la colère de Dieu, on ne pécherait pas. Et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. On ne joue pas avec Dieu. Sa colère est vraie face à nos immoralités sexuelles. Sa colère est vraie face à notre mensonge. Sa colère est vraie quand on veut mener notre vie juste comme on a envie. Sa colère est vraie quand on essaye de s'arranger avec Dieu pour lui dire « c'est pas très grave, c'est vrai que c'est écrit ça, mais franchement, de nos jours, plus personne ne le vit, alors on va le vivre comme ça. » Se marier avec un non-chrétien, etc., etc., etc. Juste ce passage, 2 Corinthiens 6. « Ne formez pas avec des incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre justice et iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Et quel accord, quelle part le non-croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes son temple. » Et bien trop souvent, on essaye de s'arranger. Dieu est bon, Dieu fait grâce, c'est pas grave. Et on oublie la force de la colère de Dieu. Et à ne pas voir cela, à ne pas voir l'horreur de notre faute, nous montre en fait à quel point nous sommes touchés et englués encore aujourd'hui dans le péché. Notre péché est terriblement grave, nous rappelle Moïse. Et voilà les deux grandes premières étapes de la repentance. La repentance, c'est de reconnaître qu'il y a une solution auprès de Dieu. Mais une vraie repentance dit, c'est vrai, c'est grave. C'est vrai, je mérite ta colère. C'est vrai, je mérite la mort. Et c'est vrai encore aujourd'hui en tant que chrétien, face à n'importe quel péché, la seule chose que nous avons droit de Dieu, c'est la mort, la condamnation. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu était un refuge, c'est que Dieu a voulu nous accueillir, c'est que Dieu a pardonné, c'est que Dieu fait grâce. Mais la seule chose dont nous avons droit, si on a envie de parler de mérite, c'est la mort. Notre péché est quelque chose de terriblement grave face à Dieu. Et nous avons besoin, dans une vraie repentance, de reconnaître l'horreur du mal. Mais heureusement, Moïse ne s'arrête pas là. Il nous a déjà donné une première solution, trouver le refuge auprès de Dieu, c'est toi mon refuge, face à l'horreur de mon péché, contre toi, c'est toi mon refuge. Mais il continue à nous conduire dans la repentance. Je veux alors aussi prendre plaisir en Dieu pour justement me détourner du mal, verset 12 à verset 17. Et c'est cet appel à vivre la sagesse de la part de Dieu. Enseigne-nous! Afin de ne pas me laisser entraîner par le mal, par le péché, enseigne-moi, enseigne-nous à compter nos jours, à être sage aujourd'hui. Et comment être sage aujourd'hui? Moïse va nous conduire alors vers la bienveillance de Dieu qu'il a expérimentée. Suite au veau d'or, justement, déjà, voilà qui est l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, devant Moïse, en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Moïse s'empressa de s'incliner. Parce que Moïse a eu cette grande révélation de Dieu, de la grande révélation de la bienveillance, de la bonté de Dieu, mais aussi que Dieu pardonne, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Moïse continue dans son psaume et nous instruit. Alors comment vivre cette sagesse, comment vivre cette bienveillance, comment vivre que Dieu soit notre refuge? Et il le fait avec des images très grandes de sens. Première image, verset 14, « Rassasie-nous dès le matin ». Rassasie-nous. Moïse est en train de nous confronter au petit déjeuner. Il est en train de dire « Nourris-moi ». Et comme le petit déjeuner est quelque chose d'extrêmement important pour nous le matin, où on entend dire « comme mon corps a besoin d'énergie pour démarrer la journée, de la même manière, mon âme a besoin d'énergie. Et j'ai besoin plus que d'être rassasié par un bon petit déj, j'ai besoin chaque matin de me tourner vers la bonté et la bienveillance de Dieu, d'être rassasié, de prendre plaisir dans cette offre, dans ce caractère de Dieu, dans sa bonté et son pardon. Qu'est-ce qui va me détourner du péché? Qu'est-ce qui va me détourner du mal aujourd'hui? C'est de connaître mon Dieu, la force de sa colère, mais aussi la grandeur de son pardon. Rassasie-moi. Savourons avec joie le petit déjeuner de la bienveillance de Dieu. Deuxième image. Verset 15, j'oublie. Quelles sont les conséquences alors pour notre journée? Si on va se rassasier, nous serons triomphants et joyeux. La joie va nous habiter. Pas la joie d'être bien aujourd'hui. Pas la joie d'avoir tout ce qu'il me faut aujourd'hui. Pas la joie d'être en bonne santé, etc. Mais la joie de savoir aimer. La joie de savoir que ma vie a de l'espérance parce que le pardon est vrai. Triomphe et joie, plaisir dans la bienveillance de Dieu. Deuxième image, verset 15. Réjouis-nous autant de jours, qu'on soit heureux, que Dieu seul soit la source de notre joie. Question, c'est quoi la source de ta joie? Qu'est-ce qui te rend joyeux, de manière générale? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te rend joyeux? C'est d'avoir bien fait ton travail? Et c'est bien. Est-ce que c'est d'avoir réussi, d'avoir de belles relations? Et c'est bien. Mais si nous sommes honnêtes, parfois nous avons de la joie aussi dans nos fautes, dans notre péché, n'est-ce pas? Comme moi, vous avez déjà expérimenté que un mal, sur le coup, nous rend joyeux, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on le fait. On ne le ferait pas si ça ne nous rendrait pas joyeux. Mais Moïse nous invite à une autre joie. Que notre joie ne soit pas dans l'instant T qui va nous faire mal, au bout du compte. Mais que notre joie soit en Dieu seul, que soit lui seul la source de notre joie, une joie qui dure éternellement, une joie qui dure tout au long de ma journée et que je ne regrette pas après de l'avoir connue ou après de l'avoir commis. Une joie qui vient et qui me donne de l'espérance pour tout le temps. Et c'est vrai, nous trouvons de la joie dans la pornographie, nous trouvons de la joie dans une arnaque, n'est-ce pas? Mais ça nous fait mal après. Ça nous détruit après. Et ça détruit les autres après. Que Dieu seul soit notre joie. Réjouis-nous. Toi seul sois la source de notre joie. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que toi tu as fait pour nous. Tu es notre Créateur, notre refuge, celui qui nous pardonne. Et Moïse nous invite ici à remplacer nos valeurs, à remplacer notre source de joie, toi et non plus les autres. Soyons clairs, si nous ne remplaçons pas notre source de joie, le mal va rester. On doit trouver une autre joie, une plus grande joie que la pornographie, que l'arnaque, que la violence, que les paroles violentes envers les autres. Parce que si nous ne les remplaçons pas, nous allons les continuer. Mais si c'est Dieu qui nous donne cette autre joie, alors ces autres choses vont pâlir et vont apparaître telles qu'elles sont, dégoûtantes, dégradantes, et destructrices, pour moi d'abord et pour les autres aussi. Troisièmement, verset 16, « Que ton œuvre apparaisse et ta splendeur. » Nous sommes ici un peu au musée, il y a cette invitation à être devant une œuvre de maître, à pouvoir nous réjouir et contempler quelque chose juste de magnifique. Alors pour certains, ça va être une peinture, quelque chose de beau, de magnifique, et on va s'extasier devant. Pour d'autres, ça va être peut-être une pièce de musique, et on va s'extasier devant. Pour d'autres, ce sera une assiette bellement bien décorée. On a différents goûts, mais c'est cette invitation à être chez l'artisan et à s'extasier devant une œuvre d'art, et à laisser cette œuvre d'art nous impressionner, nous marquer dans nos émotions, dans notre intelligence, pour pouvoir être subjugués par elle et de ne vouloir parler que d'elle. Que tu puisses me montrer la grandeur de ton œuvre. La grandeur de ton œuvre depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Ta grande œuvre de te faire un peuple au milieu duquel tu habites. Que cela puisse me marquer, m'impressionner, me subjuguer afin que je puisse être heureux, me réjouir en cela. Que je puisse voir toute ton action de délivrance et de pardon envers l'humanité pour reprendre à toi ce peuple de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Que nos yeux, nos émotions et notre cerveau soient marqués et ému. Pourquoi? Pour que je puisse mettre aussi ma force et ma joie dans cette œuvre-là et pas me disperser ailleurs. Et c'est ce qui vient encore avec cette quatrième pétition. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Il nous invite ici, Moïse, à la joie de la relation. La joie de la relation du couple ou la joie de la relation d'une belle amitié. Juste à vivre ce plaisir d'être avec l'être aimé. Quand on s'entend bien dans le couple ou quand on s'entend bien avec une belle amitié, juste ta présence est réjouissante, n'est-ce pas? On se réjouit et on a envie d'aller vers cette personne avec qui on est bien. Et en fait, on n'a pas toujours besoin de parler parce que juste la présence est belle et réjouissante. Et Moïse nous invite, recevons nous aussi cette tendresse pour nous séparer du mal, pour nous séparer de la gravité de notre faute, de notre péché, de ce qui déshonore Dieu, de ce qui nous détruit. Recevons jour après jour avec plaisir la présence de Dieu. Accueillons-la comme notre être bien-aimé, comme notre conjoint ou comme notre meilleur ami. Recherchons-la avidement jour après jour après jour. Premièrement, reconnaissons Dieu seul est notre refuge. Deuxièmement, dans la repentance, reconnaissons la gravité et la folie de notre faute. Et recherchons à échapper, à rejeter ce mal, à trouver la sagesse auprès de Dieu, en nous rassasiant de sa bienveillance, en faisant de lui seul notre source de joie, en nous émerveillant de son œuvre et en nous réjouissant de sa présence, afin de nous investir, nous aussi, dans son œuvre et dans sa présence. Et au final, dans ce psaume, Moïse, nous met face à la quête du cœur de l'homme. Où est notre joie ? Où est notre joie ? Et avec son recul sur la vie du peuple dans le désert, il nous fait réfléchir parce que lui a vu les conséquences de la joie et du bonheur qui sont centrées sur l'immédiat et sur l'éphémère. Et il a vu que ça fait en moyenne 42 morts par jour. Il nous dit, réfléchissons bien. Réfléchissons bien. Où allons-nous enquérir pour notre joie ? Et il prie là pour un cœur qui s'incline vers Dieu. Un cœur qui aime Dieu tel qu'il est, la sainteté de Dieu, ce Dieu créateur, pour trouver notre joie et fuir le mal. Et si nous prenons le temps de réfléchir un peu plus loin, c'est toujours vrai pour nous, bien sûr, mais nous avons, nous, un autre grand avantage sur Moïse. Et ce grand avantage, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Est-ce que nous voulons connaître la force de la colère de Dieu ? Et en Jésus-Christ, on peut la connaître. La force de la colère de Dieu se mesure à la croix de Jésus-Christ. Pour que la colère de Dieu se détourne véritablement, durablement, définitivement de nous, la colère de Dieu était si grande, si juste, notre mal était si grave qu'il a fallu rien de moins que Dieu lui-même meure à la croix. Contemplons la croix pour voir la gravité de notre faute et pour voir l'ampleur de la colère de Dieu, afin de mesurer vraiment, est-ce que c'est ça que je veux faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est ce mal que je veux faire ? Est-ce que c'est ces paroles violentes que je veux avoir ? Est-ce que c'est ces paroles détournées que je veux vivre ? La colère de Dieu se mesure à la croix de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous pouvons être rassasiés de la bienveillance de Dieu de manière complète et entière. Autant c'est à sa croix qu'on voit l'ampleur de sa colère, la gravité totale de notre faute, mais c'est aussi à la croix que se déverse l'entièreté de sa bienveillance et de sa grâce et de son amour. Et c'est là qu'on va pouvoir être rassasiés pleinement. Aujourd'hui, chaque matin, rassasie-nous de ta bienveillance déversée à la croix. Chaque matin, rassasie-moi quand je médite et que j'en me tourne vers toi pour contempler à nouveau l'œuvre de ton pardon. Rassasie-moi chaque matin de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu vient réjouir son peuple parce qu'il est, comme Moïse nous l'a dit, le Dieu présent. Il n'est pas le Dieu lointain. En Jésus-Christ, Dieu s'est rendu accessible au plus proche de chacun d'entre nous. Et c'est toujours vrai pour nous, de manière encore plus intime que les disciples de Jésus-Christ qui étaient à côté de Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit en nous. Nous avons encore beaucoup plus d'intimité que quand il le vivait juste à côté de lui. Viens réjouir ton peuple par ta présence Et au final, cette joie va être beaucoup plus grande que la difficulté ou le malheur que nous avons connu, parce que cette joie nous entraîne dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'en Jésus-Christ, on peut contempler pleinement l'œuvre de Dieu. La grandeur de l'œuvre de Dieu se révèle magnifiquement, entièrement, totalement en Jésus-Christ seul, où son secours est manifesté. Par sa victoire à la croix, il nous introduit dans sa présence, mais il nous réjouit aussi en nous disant « Voilà l'œuvre de Dieu. Il a voulu se faire un peuple, ce peuple l'a rejeté, ce peuple a été racheté en Jésus-Christ et ce peuple va être pour l'éternité dans sa présence. » Dans ce lieu où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de difficultés, plus de malheurs. Voilà ce qui nous attend. Contemplons cette œuvre rendue accessible, possible, révélée en Jésus-Christ seul, afin qu'aujourd'hui, par sa joie, par sa nourriture, par le contemplant de son œuvre, par la croix, nous puissions reconnaître la gravité de notre péché, trouver le refuge dans son pardon et nous inscrire dans son œuvre, afin que notre vie compte et que l'ouvrage de nous-mêmes soit affermi par l'ouvrage de ses mains. Je vous invite à prier.